Le groupe Winch fait encore parler de lui.
J'ai vu Chang, il était vivant, il m'a appelé au secours.
Voyons, Tintin.
Non, capitaine.
J'irai Calibre à la place de cette idiote Calibre.
Non, Amélie, non, et bien. Je vais tomber dans la marmite des gens.
Tu dois être Caroline. Toi, tu dois être Bill. Et je parie que ce gentil chien, c'est Boule.
Ah, oh, c'est trop gentil, je trouve coquet.
Oh oui, mon petit, je trouve coquet. Tu es superbe, c'est bien le mot.
Le bouquet des bulles.
Toute la BD, rien que la BD.
La trilogie marseillaise d'après Marcel Pagnol. Marius, Fanny, César sont trois noms qui résonnent à nos oreilles comme le bruit d'une cigale à l'heure de la sieste. Pourtant, cette œuvre de Marcel Pagnol a une longue histoire qui dépasse le cadre des films que nous connaissons tous. L'auteur la raconte lui-même par la voix de Serge Scotto.
Vers 1925, parce que je me sentais exilé à Paris, je m'aperçus que j'aimais Marseille. Et je voulus exprimer cette amitié en écrivant une pièce marseillaise. Des amis et des aînés m'en dissuadèrent. Ils me dirent qu'un ouvrage aussi local, qui mettait en scène des personnages affublés d'un accent aussi particulier, ne serait certainement pas compris hors des Bouches-du-Rhône et qu'à Marseille même, il serait considéré comme un travail d'amateur. Ces raisons me parurent fortes et je renonçai à mon projet. Mais en 1926, je vis jouer le mariage de Mademoiselle Bellemant. Ce chef-d'œuvre avait déjà 16 ans et son succès avait fait le tour du monde. Ce soir-là, j'ai compris qu'une œuvre locale, mais profondément sincère et authentique, pouvait parfois prendre place dans le patrimoine littéraire d'un pays et plaire dans le monde entier. J'ai donc essayé de faire pour Marseille ce que Fonson et Wischler avaient fait pour Bruxelles.
Marius est donc une pièce de théâtre à l'origine, qui sera créée au Théâtre de Paris le 9 mars 1929 et rencontrera immédiatement un vif succès, jouant à guichet fermé de nombreux mois. Rému en sera la figure emblématique, celle de César. Et ce n'est qu'en 1931, avec l'avènement du cinéma parlant, que Pagnol convainc les producteurs de la Paramount d'en réaliser une version cinématographique. Celle-ci sera réalisée par le Britannique Alexander Korda, tandis que Pagnol s'attelle déjà à l'écriture de la deuxième partie de la trilogie. Les scènes extérieures seront tournées à Marseille, tandis que les intérieurs seront filmés au studio de Joinville, dans la région parisienne. Et ce n'est qu'au début des années 2000 que le projet pharaonique d'adapter en bande dessinée l'intégralité de l'œuvre de Pagnol voit le jour. Serge Scotto, qui en est à l'origine, nous en explique les détails en commençant par le début. Comment est-il tombé dans la bande dessinée?
Je suis arrivé dans le monde de la BD tout simplement en lisant depuis tout petit et j'ai tout de suite été fasciné. Mon père nous avait abonné à Pif Gadget parce qu'il travaillait dans la presse communiste et puis on lisait aussi les Spirou, les gros albums reliés de Spirou qu'on trouvait dans une grande armoire chez ma grand-mère. Elle avait commencé à les acheter dans les années 30 pour mon père d'ailleurs, et puis comme elle a eu 6 enfants, ça s'était étalé jusque dans les années 70. Et puis après, adolescent, j'ai découvert Fluide Glacial, puis Harakiri, et d'ailleurs le professeur Choron est la première personne que j'ai rencontrée dans le métier, simplement en l'appelant un jour au journal, puis il m'a fait monter à Paris, on a fait quelques conneries ensemble. Et voilà, à l'époque j'avais un vrai métier, hein, avant. Je faisais instituteur, je ne l'ai pas fait longtemps. Ça s'est plutôt mal passé entre l'éducation nationale et moi. Et le divorce a pour le moins été difficultueux. Puis pendant une quinzaine d'années, j'ai fait des tas de trucs plus ou moins artistiques, de la musique, du rock and roll. Je produisais des événements culturels, je faisais un peu de BD. Mais essentiellement, je gagne mon argent en travaillant dans le milieu de la nuit, voire... avec le milieu tout court, j'ai beaucoup fréquenté les voyous, j'ai fréquenté pas mal les politiciens, et je fréquente aujourd'hui les éditeurs, et je dois dire que même en ayant fréquenté les politiciens et les voyous, rien ne peut vous préparer à la fréquentation des éditeurs. Cela dit, je fais enfin le métier que j'ai toujours rêvé de faire, donc je suis à présent l'homme le plus heureux du monde, je mène une vie qui me ressemble. Je fais du scénario de BD, je dessine aussi à l'occasion, un peu plus rarement, mais voilà, je continue aussi à dessiner, et pourvu que ça dure. Adapter l'œuvre de Pagnol, c'était même pas une idée, hein, c'était même plus qu'une évidence, c'était un manque. Moi, je m'étais toujours dit que c'était dommage, D'abord, je suis un petit Marseillais, donc à Marseille, Pagnol, c'est quasiment patrimonial, hein, c'est un membre de la famille, même si ça occulte presque que c'est l'écrivain français le plus connu dans le monde. Hein, faut pas le cantonner à ce folklore, hein, je veux dire, il y a qu'en France, finalement, qu'on le prend pour... Et à Paris, surtout, qu'on le prend pour un plouc marseillais. Pagnol, il est adulé, et il était déjà de son vivant dans le monde entier, ce qui prouve qu'il touche à quelque chose d'universel, hein, dans ses histoires. Et puis, surtout, c'était parfait pour la BD. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Il se trouve que c'était une question de rencontre et de personne. Et c'est lorsque j'ai rencontré Nicolas Pagnol que ça s'est déclenché. C'est une envie que la famille Pagnol avait... depuis longtemps, d'autant que Marcel Pagnol aimait la bande dessinée lui-même et que c'est pratiquement une des dernières volontés qu'il a énoncées. Il avait demandé à Jacqueline, son épouse, après sa mort, de faire tourner ses scénarios par d'autres, de faire jouer ses pièces par d'autres. Il lui avait dit texto, j'accote, je vais pas vous imiter son accent, mais c'est Nicolas Pagnol qui m'a fait... cette confidence, il lui avait dit « J'accote, je ne veux pas devenir un écrivain poussiéreux dans les rayons des bibliothèques. » C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait toujours été très moderne, très audacieux et surtout très visionnaire. Et il avait compris que pour passer de la célébrité à la postérité, on va dire, il fallait aussi passer le relais aux générations suivantes. Et s'il n'avait pas lui-même touché à la BD, vu qu'en fait il a touché à tout cet homme, c'est simplement parce qu'à l'époque, ça passait encore pour un art mineur, quoi. C'est ce qu'on appelait des publications destinées à la jeunesse. Aujourd'hui, la BD, elle est devenue adulte. Jacqueline Pagnol, elle y pensait depuis très très longtemps. Elle avait fait une première expérience qui s'était pas bien passée à ses yeux, donc elle avait renoncé il y a 25 ans de ça. Et puis, ça a été une question de confiance. Nicolas lui a dit « Non, mais je connais la personne qu'il faut, tout ça. » Et donc, on a démarré avec mon ami Eric Stoffel, qui est lui aussi marseillais et scénariste de BD, vraiment en confiance avec la famille Pagnol. Pagnol, il est fait pour la BD parce que, d'abord, il a une écriture totalement visuelle. Quand vous lisez, par exemple, « Les souvenirs d'enfance »,« La gloire de mon père »,« Le château de ma mère », il vous dit presque où il mettrait la caméra, quoi. Ses descriptions sont hyper précises. Il vous dit toujours le soleil dans le monde d'eau, la couleur rouge de l'écharpe. Enfin, je veux dire, vous avez l'image devant les yeux parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui pense en image. Donc, lorsqu'il écrit du roman, ce qu'il décrit, ben, c'est de l'image. Vraiment, il suffit de dérouler comme ça le texte devant ses yeux. Puis, je veux dire, dans la colonne de gauche du scénario, on met la description. Dans la colonne de droite, on met les dialogues. Et voilà, il est tout fait. C'est quelqu'un qui pense en image et c'est aussi quelqu'un qui pense en dialogue. C'est un homme de cinéma et un homme de théâtre. Il écrit des pièces, il fait des films. Donc tout ça, c'est de la BD parce que la BD, c'est simplement de l'image avec des dialogues. Notre contribution à Eric Stoffel et à moi, elle tient à une phrase. Hein. On se met au service de Pagnol. On lui offre les outils de la BD pour servir au mieux ses œuvres. Ça veut dire que... il faut être fidèle, plus qu'être fidèle à la lettre, il faut être fidèle à l'esprit. Il ne faut pas faire des copier-coller des films ou des pièces qui ont souvent été limitées par les moyens techniques du cinéma ou du théâtre. Au théâtre, vous avez droit à deux décors, les portes claques, en BD, on peut déplacer les personnages à l'infini. Ce qui est évoqué par les dialogues au théâtre, on peut le montrer et le situer en BD. À l'époque, même au cinéma, les caméras pesaient 80 kilos. Alors, malgré toutes ses ambitions artistiques, Pagnol, il pouvait pas non plus filmer toujours de la façon dont il voulait. Donc nous, parce qu'il faut savoir, ça c'est très important, que Pagnol s'est lui-même adapté toute sa vie. Ses œuvres, il les a souvent réécrites plusieurs fois. Donc on part aussi de ses notes qu'il a laissées, comme on l'a fait pour Jazz, par exemple, qui était une pièce de ses débuts, qu'il comptait réécrire, il ne l'a pas fait, il a laissé quelques notes, on est parti de ses notes, etc. Il y a souvent plusieurs versions, donc on fait des synthèses. Voilà, donc il était lui-même l'adaptation incarnée. Donc je crois qu'il n'y a pas peur, il ne faut pas avoir peur d'envoyer les mains pour toutouiller tout ça, pour essayer d'en sortir la substantifique... moelle, parce que la BD, quand même, ça a des moyens que même le cinéma Hollywood n'a pas, parce que même Cécile B. DeMille, lorsque pour un péplum, il se paye 10 000 figurants, bon, à un moment donné, il y a la limite budgétaire aussi, dans un film, les effets spéciaux, etc. Toutes ces choses-là, on peut passer par-dessus en BD, parce qu'il suffit d'un crayon. Alors, l'ordre de ces adaptations, il s'est un peu imposé à nous par l'idée qu'avait la famille Pagnol de faire redécouvrir l'œuvre de Marcel Pagnol, non seulement à la nouvelle génération, qui ne lit plus, vous le savez, puis qui n'a pas forcément envie de voir un vieux film en noir et blanc crachotant, mais même aussi à la génération précédente, qui croit souvent connaître Pagnol par cœur, parce qu'on en connaît quelques répliques, de la partie de cartes, ou que sais-je. Mais en fait, chez Pagnol, il y a tout un pan de son œuvre qui est dans l'ombre de ses best-sellers, qui se souviennent de jazz, qui se souviennent de Judas, qui se souviennent des Pestiférés. Bon, alors qu'il n'y a rien de mineur. Donc ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est qu'on allait en parallèle tirer les best-sellers. On a commencé par exemple avec les souvenirs d'enfance, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, Le temps des amours. Et en parallèle, on a sorti Merlus. Je suis sûr que de l'autre côté du poste, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Merlus. Jazz, Topaz, etc. Donc en fait, on sort les titres les plus connus et en parallèle, les moins connus, les titres les plus connus étant les piliers de la collection. Donc, après les souvenirs d'enfance, on a attaqué L'eau des collines, c'est-à-dire Manon des sources, Jean de Florette et Manon des sources. C'est un peu le second pilier de la collection. Et puis enfin, la trilogie, le gros œuvre, Marius, Fanny et César, auxquels on accorde tant de considération qu'on est bien parti pour 7 ou 8 ans sur ces trois titres, parce qu'on y passe un temps fou, parce qu'on veut qu'il soit aux petits oignons, quoi. Voilà. Donc, c'est un très, très gros travail. Alors, on est parti, donc, pour une bonne quinzaine d'années avec toute cette série d'adaptations. Donc, les équipes sont fluctuantes, album par album. Le noyau dur, c'est toujours Eric Stoffel et moi-même. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait une unité. C'est Pagnol sur la couverture. Juste en dessous, il y a Eric Stoffel et Serge Scotto. Et ensuite, il y a les dessinateurs qui, eux, changent à chaque fois. Sébastien Maurice, vraiment, ça a été un coup de cœur. Nous, on se met au service de Pagnol, puis il faut que le dessinateur se mette au service du scénariste, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de maillon détendu dans cette chaîne. Et on a la chance, en revanche, qu'à la famille Pagnol, de la même façon, à la seconde où elle a décidé de nous faire confiance, elle nous fait confiance et on ne les a pas comme des corbeaux sur l'épaule. La famille Pagnol aussi, elle est très cool avec nous, donc on fait ça dans le cool. Et tant mieux, parce qu'on est parti, donc je répète, pour au moins 15 ans. Le tome 1 de Marius est donc paru en novembre 2019. Le tome 2, si tout va bien, il devrait arriver à Noël. Et l'idée, c'est d'en sortir un l'année prochaine, aussi, derrière, là, c'est-à-dire le premier tome de Fanny. C'est-à-dire que maintenant, on voudrait arriver à avoir un rythme soutenu sur cette trilogie d'au moins un tome par an, qui nous amènera quand même en 2025. Voilà. Entre-temps, la collection continue, parce que moi, ce que je veux surtout, que vos auditeurs aient envie d'aller découvrir toutes ces pépites de Pagnol. On a même publié des inédits comme les Pestiférés ou la partie de boule. Enfin, les Pestiférés, par exemple, la fin est totalement inédite. On a pu reconstituer l'ensemble du texte grâce à des notes personnelles fournies par la famille. Voilà, donc là, tous les fans de Pagnol, ils vont carrément découvrir quelque chose. Puis en ce moment, les Pestiférés, j'ai envie de dire que c'est un peu d'actualité, parce que rien n'a encore changé, quoi. Ça pourrait presque s'appeler le coronavirus. Et pourtant, ça se passe il y a 300 ans. On fête cette année le tricentenaire de la Grande Peste à Marseille. Donc vous avez compris que l'idée de départ, c'était de faire l'adaptation des œuvres complètes. Mais on se rend compte sur Marius qu'on a mis plus de 2 ans. Parce qu'on s'est donné du mal. D'abord, Marius, il en existe des tas de versions. Hein. Comme je vous l'ai dit, Pagnol a passé son temps à s'adapter lui-même. Ça a d'abord été une pièce, puis il en a fait un film, puis il a réécrit la pièce. Et en fait, on a travaillé sur 3 ou 4 versions d'abord pour réécrire notre texte, notamment sur la version cinématographique, parce que Rému lui-même a fait pas mal d'apports, etc. Donc il y a tout ce travail en amont. C'est le dessinateur Sébastien Maurice qui a recréé le quartier où ça se passe en 3D pour justement pouvoir multiplier les angles, les cadrages, ne pas être économe sur le décor. Il est venu nous voir à Marseille, on lui a fait visiter le quartier, non pas le quartier où ça se passait exactement, puisqu'il a été démoli par les Allemands en 43, là où existait le vrai bar de la marine qui avait inspiré Marcel Pagnol, mais grâce à des tas d'archives, on a pu reconstituer tout ce quartier et donner à voir un Marseille que même les Marseillais vont redécouvrir, parce que justement on peut sortir, nous. Et donc on a resitué pas mal de scènes qui, en principe, vous savez, dans Marius, tout se passe pratiquement au bar, quoi. Bon, mais nous, je veux dire, on est allé se promener dans Marseille, et de préférence dans des endroits qui n'existe plus, hein. Marseille a beaucoup changé. Donc dans la BD, on voit le pont transbordeur, on voit le canal de la douane qui n'existe plus, la plage des pierres plates qui n'existe plus. Ça se passe au quartier Saint-Jean, donc qui n'existe plus du tout. Donc même les Marseillais vont redécouvrir Marseille. Je dirais pas que c'est un travail scientifique, mais c'est en tout cas un travail historique, voilà. Et tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Vous imaginez bien que ne serait-ce que pour reconstituer le pont transbordeur, qui est une sorte d'ouvrage de ferraille largement aussi complexe que la Tour Eiffel en 3D, quoi. C'est déjà une semaine de boulot. Mais après, ça vous permet de pouvoir le mettre dans chaque case où il est visible. Parce que si le dessinateur devait le redessiner chaque fois à la main, bon, ben, pour pas se faire une syncope, il aurait mis une ou deux fois, alors que là, dans l'album, on le voit peut-être 10 fois, quoi, voilà. Et on a la chance d'avoir un dessinateur qui en veut vraiment, qui est hyper méticuleux. Bastien Maurice, c'est du lourd, mais c'est pas rapide. C'est un cheval de trait, hein, y a rien qui l'arrête. Mais faut pas être pressé. Mais alors, aussi, les albums sont... Marius, voilà, je m'en fous, je le dis à la radio, on en est fiers.
Autant vous le dire, cet album est enchanteur, peu cher. Il fait chanter les cigales. Oui, il fleure bon le parler marseillais auquel, vous l'avez remarqué, Serge Scotto est moins étranger que moi. Le dessin tout en couleur directe est efficace. Les cadrages, grâce à la technologie de reconstitution des décors en 3D, sont magnifiques. Mais une œuvre de Pagnol ne serait rien sans les truculents dialogues du grand Marcel qui donne des phrases du genre...
Moi, et par exemple, j'ai tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un ravasseur. Mais tu connais pas ton métier,
je le connais.
Non, tu ne le connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu sais pas encore doser un vermouth cassis ou un mandarin citron. Quand ton piquant citron curaçao de la maison, ça, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hier, le père Cougourde est venu et il s'est plaint à moi. Oh, pourtant pas difficile, voyons. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà.
Et ça fait 4 tiers. Hein?
Et alors?
Eh bien, il n'y a que 3 tiers.
Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
Eh non, ça dépend pas.
Pourquoi ça dépend pas?
Ben c'est de l'arithmétique, ça.
En résumé, lisez Marius, mais allez aussi découvrir toute l'œuvre de Pagnol, déjà parue, une douzaine d'albums environ, et surveillez de près la suite de cette intégrale savoureuse et enchanteresse.
C'était le bouquet des bulles.